Bonjour Mathilde Panot.
Bonjour.
C'est une journée de grève dans l'éducation nationale aujourd'hui pour protester contre les conditions de travail dans ce contexte si particulier de l'épidémie de Covid. Est-ce que vous serez aujourd'hui aux côtés des manifestants ?
Évidemment, je crois que c'est très important. Vous vous rendez compte qu'on a un protocole sanitaire qui a changé 4 fois depuis le début des vacances de fin d'année. Donc je crois qu'il y a un ras-le-bol généralisé, effet assez historique. Vous allez avoir des directions d'école qui vont manifester, des inspecteurs de l'éducation nationale qui vont manifester. Je crois qu'on va être sur une mobilisation très importante.
Et les parents d'élèves aussi, d'ailleurs, soutiennent cette mobilisation, ce qui est assez rare. On parle en effet d'une mobilisation qui pourrait être historique. C'est ce que vous espérez ?
Oui, parce que depuis maintenant 2 ans, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites par les professeurs, par les syndicats de l'éducation et qui se retrouvent complètement mis à la poubelle. Après 2 ans d'épidémie, nous n'avons toujours pas de purificateur d'air dans les écoles, nous n'avons toujours pas de masque FFP2 pour protéger les personnels enseignants, nous n'avons toujours pas de société du roulement qui permettrait qu'on ne se contamine pas. Et on a quand même un bilan d'Emmanuel Macron qui est la suppression de 7900 postes sur le quinquennat. Si vous prenez un équivalent, c'est l'équivalent de 175 collèges qui auraient disparu dans le pays. Je crois qu'il faut maintenant déblancariser l'éducation nationale. Et c'est ce que nous pouvons faire, notamment avec les présidentielles.
Est-ce que vous comprenez la stratégie du gouvernement dans les établissements scolaires ? Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, d'une certaine manière, le parti a été pris de laisser circuler ce virus ?
Peut-être que c'est le parti qu'ils ont pris. En tout cas, ils sont en train de créer un chaos extrêmement fort. Et on est en train de souffrir d'années et d'années de sous-investissement dans l'éducation. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, dans le 5e pays le plus riche au monde, des enfants en situation de handicap sont déscolarisés parce qu'il n'y a pas assez d'AESH. Et dans mon département...
Les auxiliaires de vie scolaire...
Les accompagnantes d'enfants en situation de handicap qui sont en grève illimitée, notamment dans le Val-de-Marne, parce qu'elles sont payées 800 euros par mois et qu'elles sont maintenant mutualisées, qu'il n'y en a pas assez, et donc avec à la fois des conditions de travail indignes, mais aussi des enfants qui ne peuvent pas être accompagnés dignement. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays aussi riche que le nôtre ? Nous, non. De même qu'il n'y ait plus d'infirmiers, de médecins scolaires. Bref, on a absolument tout désorganisé dans l'éducation nationale, et je crois qu'il est temps d'avoir une réaction.
Alors, je le disais, donc on parle d'une mobilisation qui pourrait être historique. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu surprenant tout de même à ce que précisément cette mobilisation soit beaucoup plus importante que lors de mouvements précédents qui touchaient peut-être à des sujets plus fondamentaux comme les programmes, la qualité de l'enseignement, les moyens, voire éventuellement les rémunérations? Est-ce que ça serait pas étonnant? Parce que là, c'est un problème qui, au fond, est beaucoup plus conjoncturel.
Je crois que le Covid joue le rôle de révélateur, comme il l'a joué à l'hôpital public sur des dizaines d'années de politiques qui ont été faites pour affaiblir l'éducation nationale ou l'hôpital public, si on en discute. Donc il joue le rôle d'un révélateur, et en fait c'est en quelque sorte la goutte de trop qui se rajoute sur tout ce que vous avez dit, des salaires qui sont très bas, sur des conditions de travail qui ne sont pas dignes, sur des classes qui sont surchargées, et tout ça est révélé par le Covid, puisque lorsque vous avez notamment des classes à 35, 36, comme se retrouvent parfois des enseignants, évidemment vous avez aussi une circulation du virus qui est beaucoup plus active. Donc je crois que avec cette mobilisation, on a, à partir d'un mépris extrêmement fort, puisque les professeurs ont appris la veille le nouveau protocole sanitaire dans un journal payant, la veille de la rentrée, à partir de ce mépris-là, on a toutes ces revendications aussi qui vont revenir sur la table. Donc je crois que c'est un révélateur de ce ras-le-bol généralisé.
En disant, comme il l'a fait, qu'on ne fait pas grève contre un virus, le ministre de l'Éducation nationale a-t-il pu renforcer encore peut-être la détermination, la mobilisation des enseignants ?
Oui, je crois que Jean-Michel Blanquer doit être le ministre le plus détesté aujourd'hui de la Macronie. Il fait preuve d'un mépris extrêmement fort. Il n'a jamais rien écouté de ce qu'ont dit les différents syndicats. Il n'a jamais rien écouté de ce que nous proposons maintenant depuis 2 ans. Et en fait, n'a jamais fait en sorte qu'on puisse protéger de la contamination le plus possible tous les personnels de l'éducation avec des choses d'une absurdie généralisée. Vous avez par exemple aujourd'hui dans le protocole, lorsque un professeur est positif au Covid, les enfants ne sont pas qu'à contact. Alors apparemment, entre un adulte et des enfants, le virus ne circulerait pas. Bref, on est vraiment sur des choses qui exaspèrent les gens et qui sont en dehors de tout bon sens.
La version modifiée du pass vaccinal que le Sénat a adopté hier soir et qui prévoit notamment que le dispositif serait immédiatement suspendu dès lors qu'il y aurait moins de 10 000 patients Covid dans les hôpitaux, est-ce que cette version vous paraît plus acceptable ?
Non, alors il y a une chose que le Sénat a changée qui est appréciable, c'est les contrôles d'identité à tout va et la question des mineurs. J'alerte juste, hein, l'hôpital Robert Debré, ils disent que entre fin 2019 et fin 2020, vous avez plus de 199% des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans. On est en train de créer quelque chose chez notre jeunesse qui est absolument désastreux. Quand ils ne peuvent plus faire de sport, quand ils ne peuvent plus avoir de vie sociale. Et moi, je vais vous dire, en ce moment, nous avons le pass sanitaire. Vous êtes d'accord? En ce moment, nous avons une explosion de Covid. Les passes ne sont en rien une politique sanitaire. Les passes sont en train de créer deux catégories de citoyens dans notre pays, avec en plus un président qui a envie d'emmerder les non-vaccinés, avec un président qui déclare en fait une sorte de déchéance de citoyenneté. Et c'est très grave ce qu'on est en train de faire. Parce que attaquer les libertés publiques, attaquer l'État de droit...
C'est un phénomène qu'on observe dans d'autres pays. Vous voyez ce qui se passe en ce moment au Canada, par exemple. Beaucoup plus dur.
Oui, mais je le dénonce fortement. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on fait des pires politiques ailleurs qu'il faudrait faire la même chose chez nous. Et nous, nous disons, nous pouvons faire complètement différemment. Je vous alerte juste sur quelque chose. Les zoonoses, les maladies transmises des animaux vers les êtres humains, ont été multipliées par 10 en 50 ans. Nous allons vivre d'autres épidémies. Est-ce que considérer que le citoyen est l'ennemi va nous aider à gérer ces pandémies? Absolument pas. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons travailler. Une société du roulement pour vivre avec le virus et surtout, surtout une démocratie sanitaire, exactement le contraire de ce que fait Emmanuel Macron actuellement.
Vous avez co-signé Mathilde Panot avec tous les autres présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, une tribune pour dénoncer les violences dont un nombre grandissant d'élus sont victimes depuis plusieurs mois maintenant. Alors c'est une belle initiative de concorde parlementaire en quelque sorte, mais au-delà justement de cette déclaration et du symbole qu'on peut y voir, sur l'analyse des causes de cette violence, en revanche, il n'y a pas de consensus.
Non, je ne crois pas qu'il y ait de consensus sur l'analyse de la violence. Je vais vous dire quelque chose.
Des raisons,
vous ne trouverez jamais aucun responsable de la France insoumise qui cautionne des violences physiques sur des élus ou sur d'autres personnes d'ailleurs. Nous combattons des idées, nous ne combattons pas des personnes. Je crois que ça, c'est très important. Et lorsqu'on veut sanctionner un élu, il existe une solution très simple pour sanctionner un élu, ça s'appelle l'isoloir et le bulletin de vote. Mais nous sommes dans une société qui est de plus en plus fragmentée. Les 500 fortunes de France ont multiplié par deux leur fortune sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Tandis que nous avons 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire, 7 millions de personnes privées d'emploi et 300 000 personnes qui dorment à la rue, dont des enfants. Plus nous aurons une société inégalitaire, plus nous aurons une société qui est violente. Et plus nous aurons un ordre injuste, plus il y aura besoin d'utiliser de la violence aussi de la part du gouvernement pour faire continuer cet ordre-là. Et notamment, c'est ce qu'on voit avec une répression extrêmement forte de la part de la Macronie.
Vous qui êtes député de la France insoumise, est-ce que sur le terrain, parfois, vous êtes confronté à ce sentiment d'hostilité, voire de colère à votre encontre? Ou est-ce que vous pensez que cette violence, elle se porte plus spécifiquement sur les représentants de la majorité?
Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui soit violent avec moi, jamais. Et y compris lorsque nous avons des sujets de désaccord, eh bien, la seule chose qui reste à faire en démocratie, c'est de discuter. Et je vais vous dire que le problème principal de la Macronie, c'est la vision qu'ils ont de la démocratie. En démocratie, on doit pouvoir discuter des choses, et y compris on doit pouvoir critiquer des politiques. La démocratie, c'est dire qu'il y a toujours d'autres chemins possibles. Et aujourd'hui, nous allons présenter notre niche parlementaire avec 9 textes où nous présenterons des propositions.
Merci Mathilde Panot.
Merci.
Bonne journée.